nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Une nuit, il dort dans son lit. La porte de sa chambre s'ouvre. Une ombre entre. Elle s'approche du lit. Se penche. Découvre délicatement lui relève la manche de son pyjama et lui fait une piqûre au bras. William a réagi, fait la grimace dans son sommeil. Puis, en lui redescend sa manche, le recouvre. Et l'on sort de la chambre. Descend les escaliers. Au rez-de-chaussée, on sort par la fenêtre. On suit le jardin, saute le mur et on entre dans une voiture noire. Thank you. Le lendemain matin, Sweetie sort de chez sa mère. Elle habite dans une petite rue. Tout à coup, une voiture va vers elle, une voiture noire. Un homme sortit de la voiture. Il la tire par la manche et veut la faire entrer dans la voiture. Elle se défend. Elle demande à l'homme, « Qu'est-ce que vous voulez ?» L'homme ne dit rien. Comme il voit qu'il n'arrive pas à la mettre dans la voiture, il sort de sa poche un manche et lui en donne un coup sur la tête. Oh ! Elle tombe évanouie. Il la pousse dans la voiture. Bien entendu, tout ça, ça a été fait très vite. Quoique Sweetie a été mise dans la voiture, il rentre lui aussi et met la voiture en route. La voiture file, file, file. La voiture s'est arrêtée en rase campagne. L'homme, dans la voiture, sort de sa poche une boîte en métal. Il ouvre et en sort une seringue. Il la pique au bras. Puis, il ouvre la portière, sort Sweetie et la dépose sur le talus. Puis, la voiture s'éloigne. Sweetie se réveille. quelques minutes plus tard, et se demande pourquoi elle est à terre. Elle se lève et se dit qu'elle a dû tomber. Elle regarde où elle est et voit qu'elle est près de son université du Rhône. Elle y va. William, comme chaque matin, se lève. Il lui semble avoir bien dormi. Ils ont oublié tous les deux leur aventure dans le sous-sol. Plus personne n'a entendu parler. Mais de temps en temps, William rêve qu'il est dans les ruines. Il dit à Sweetie, alors qu'ils sont dans un café à prendre du jus de fruits, « En ce moment, je fais des rêves étranges. Je suis dans une cité en ruine, à l'antique, et je vois une main géante. » Elle lui dit, « Tu as dû voir ça dans un film. » « Oui, peut-être, mais c'est bizarre comme ça paraît. » Vrai. Puis il lui demande, nous allons faire un tour dans les sous-sols. Elle lui dit, on ne peut plus, ils ont trop fermé à cause des éboulissements. Dommage. Il lui dit, oui, dommage. Un jour, William fait la connaissance d'un jeune homme qui fait des bandes dessinées. Un jeune homme de 25 ans, grand, maigre, cheveux longs, barbe noire. Il est habillé d'un jean et d'un pull noir. Habite un vieil immeuble des pentes. Vieil immeuble, sale et délabré. Au dernier étage de son immeuble. Une pièce principale, genre salon et atelier de dessin. Il y a du bric-à-brac dans cette pièce. Ils ont passé la soirée ensemble à discuter en buvant de la bière et en mangeant des yaourts. William, qui a travaillé pour se faire un peu d'argent chez un grossiste en fromage et laitage. Le jeune homme, qui s'appelle Luc lui dit « En ce moment, j'ai plus d'idées d'histoire. » William lui dit « Tu n'as pas de scénariste ?»« Non, et je suis incapable, c'est de travailler en équipe. » Il réfléchit et lui dit « Moi, j'ai peut-être une idée. Si tu veux. » Luc lui dit « Dis-la tout de même. » Alors William lui parle de ses rêves, de cette cité étrange dans le sous-sol de Lyon, de la main. Et au fur et à mesure qu'il parle, il croit inventer, mais il dit tout ce qui lui est arrivé. Après, il demande « Qu'est-ce que tu en penses ?» Luc lui dit « C'est très intéressant et ça ferait une bonne BD d'aventure. Bien, je suis prêt à la faire. Tu me donnes ton adresse ? Je vais la noter sur mon ordinateur. » Et c'est ce qu'ils font. Et deux jours plus tard, Luc a fait un scénario, préparé son plan pour dessiner la BD. Son héros ressemblera à Williams. William est fier et dit à Sweetie, je vais être le héros d'une BD. Et lui dit, et moi ? Il lui dit, tu n'as pas à être jalouse. Toi, tu as eu plusieurs aventures dans l'émission L'écran radiophonique. Et lui dit, mais tu y étais ? Il lui dit, oh, si peu, une fois à peine. Un mois plus tard, le livre est publié. Il a un certain succès chez les enfants. Les adultes le boudent parce qu'il ne raconte qu'une histoire d'aventure et non les horreurs d'une guerre ou une histoire prosélytique gauche multiculture. William a reçu un chèque pour l'aide au scénario. William a photo. En feuilletant l'album, retrouve son aventure, pleine de rebondissements. Il en est fier. Mais il y a quelque chose qui lui donne de l'impression, de l'angoisse. Il ne sait pas pourquoi. Le livre a été entre les mains du fils du maire 10 ans. Le maire l'a lu et s'est rappelé l'histoire et envoie le livre à Paris au ministre de l'Intérieur qui le donne au Premier ministre, le Premier ministre au président de la République et le président de la République au président du groupe Jeune Tout Pontois, le groupe Pontois chez Judith qui le donne au vieil homme. Le vieil homme le lit et dit « Nous aurions peut-être dû éliminer ces deux-là. » Elle lui dit « Nous pouvons le faire. » Il lui dit « Il est trop tard. Si on élimine Williams, les gens feront le rapprochement avec l'album. Non, ils sont passés. L'album va vite être oublié. » Les jours passent, on en continue dans le groupe Flamblant à remplacer des anciens collaborateurs par des nouveaux. Les anciens collaborateurs perdre leur travail à cause d'accidents de travail, de maladies, etc. Il y a de nombreux accidents de travail sur les chantiers et les accidents sont souvent pour des personnes que l'on souhaite faire partir. Ils sont remplacés par des hommes, des femmes, des personnes beaux, froids, qui ne pensent qu'au travail, sont célibataires et ne sont pas attirés par le sexe. Ils ont tous le fait dans le même moule. Même dans la famille, dans leur maison, on remplace les domestiques par des gens du même physique et caractère. Gilles Bisbert aussi est lui très surveillé. C'est Judith qui fait entrer tout ce monde et ses gens à elle. C'est pour seconder et s'approprier les commandes du groupe. Comme ça, le jour où l'élu prendra la présidence, ils seront tous là pour l'aider. Le père ne se rend compte de rien, ni la famille. Bien sûr, dans le groupe, il y a des gens que l'on garde parce qu'ils font partie du folklore et que Judith aime bien, telle Mademoiselle Lapin. Et puis, il y en a qui sont indispensables pour le moment et que l'on peut renvoyer parce que si l'on perd Maurice, il faut trouver quelqu'un pour aider l'élu. Donc, parmi ces personnes qu'on ne peut pas éliminé, il y a Monsieur Charles Mercier. Mais une fois qu'on n'aura plus besoin de lui, qu'on l'éliminera, il sera remplacé par Harold de Grimaud. Il faut être prêt. On ne sait jamais si on était obligé d'éliminer le père plus vite que prévu. Le père Maurice ne se rend compte de rien. Il s'occupe pas des embauches. Et pourquoi ne s'en occupe-t-il pas? Une fois qu'il y a eu suffisamment d'embauches, c'est-à-dire de remplacements, d'accidents de travail et autres, Judith convoque Harold à son bureau. Allô? Harold? C'est moi, Judith. Pouvez-vous passer à mon bureau, s'il vous plaît? Merci, je vous attends. Le de la porte s'allume. Appuie sur le bouton vert. Entrez. Bonjour. Bonjour. Venez vous asseoir. Il va s'asseoir en face du bureau. Dis. Pour aller plus loin, il faut que maintenant Gilbert commence son apprentissage. Parce que si on élimine le père, l'élu doit pouvoir prendre la suite des affaires de suite. Harold lui dit, il ne sera pas facile, vous savez que le jeune homme ne veut pas. Elle lui dit, il sera bien obligé d'accepter, autrement, qui prendra le jeu? Mettre un homme de confiance sous les ordres d'un ordinateur, il lui dit. Pourquoi pas? L'élu peut être l'élu sans s'occuper de ses affaires et donner à un autre la charge de s'en occuper, comme un roi le fait avec un premier ministre. Elle lui dit. Ça ne s'est jamais fait chez nous. Et puis, non, l'élu doit être seul pour décider et trancher pour certaines choses. C'est impossible. Il va être l'élu et prendre les rênes. Et s'il refuse ? Elle lui dit, il ne pourra pas. S'il refuse, que faire ? Elle lui dit, rien, c'est lui et rien d'autre. De génération en génération, il est devenu l'élu. C'est lui qui a le fluide. Tous les membres le savent. Il lui dit, pourtant, l'on dit que ce ne serait pas lui qui a eu erreur sur la personne. Et elle lui dit, foutaise, des mensonges. Il lui dit, il y a eu des preuves. Il dit, des preuves de quoi ? L'histoire de Galien était bien l'élu, parce que même ça a bien, il a bien mené à bien son travail. Harold lui dit, vous appelez mener à bien son travail alors que ça s'est terminé en une catastrophe monumentale ? Elle lui dit, c'était pas de sa faute. Il lui dit, tout ce qui se passe durant le règne de l'élu est de sa faute. Elle lui dit, nous ne sommes pas des Celtiques et l'élu n'est pas un de ses rois. Il lui dit, je vois que vous ne voulez pas entendre certaines choses. Moi, je pense que cet élu-là n'est pas bon. Le bon n'est peut-être une autre personne. Et on peut mettre une autre personne à la tête de nos affaires. Si l'élu, il ne veut pas s'en occuper. Elle lui dit, vous blasphémez, presque. Attention, on n'aime pas ça. Il lui dit, je sais, vous n'aimez pas les critiques et les idées personnelles. Elle lui dit, vous allez essayer, c'est de nouveau, persuader le père à ce que le petit s'enferme sur ses affaires. Harold lui demande, pourquoi ne le dites-vous pas vous-même ? Elle lui répond, parce que je ne suis que la directrice des relations humaines et que vous, vous êtes le directeur général adjoint. C'est votre rôle. Vous me semblez bien rebelle aujourd'hui. Il lui dit, c'est parce que je suis tombé cette nuit sur une robot, là. Elle lui demande, une des nôtres ? Non, pas du tout. Elle lui dit, bon, je vous laisse. Et allez voir le père. Il se lève et la quitte. Il retourne à son bureau. Prend son téléphone, fait un numéro. Allô ? Bonjour monsieur, je suis Harold. J'aimerais avoir monsieur Franblanc. Bon, j'attends. Allô monsieur, je suis monsieur Harold. J'aimerais avoir rendez-vous avec vous. J'ai à vous parler de certaines choses. Bien, à 15h, demain. Bien, monsieur. Et il décroche. Demain, à 15h, ils sont dans le bureau de Maurice. Ils sont tous les deux assis. Maurice lui dit, je vous écoute, monsieur. Harold lui dit, voilà, monsieur, vu les difficultés économiques, et puis le temps passe vite, je me suis dit que vu la complication de nos affaires, donc je me suis dit qu'il serait bon, c'est que votre fils s'informe de ses affaires et vienne de temps en temps au siège. Maurice lui dit,
Vous avez raison, monsieur. Mon fils devrait venir plus souvent ici et même s'occuper de mes affaires. Je le lui dis constamment. Mais vous savez, les jeunes, je vais tâcher de lui redire, mais je ne pense pas qu'il le veuille.
Je lui demande, alors que deviendra l'affaire s'il ne veut pas s'en occuper?
Le père lui dit, on mettra un homme d'affaires qui s'en occupera et se remplira les poches. Merci de me l'avoir dit. Harold se lève, monsieur le président, et il le quitte.
Une fois qu'il est quitté, le père prend son téléphone à son fils.
Allô? J'aimerais parler à mon fils, s'il vous plaît. Merci. Allô, Gilbert? C'est moi. Dis donc, j'ai des choses à te dire. J'aimerais qu'on puisse parler ensemble, si tu veux.
Gilbert lui dit, je viendrai à la maison, disons ce soir. Le père lui dit,
oui, à l'heure du dîner, tu mangeras avec nous. Au revoir.
Le soir, lorsqu'il rentre chez lui, il va retrouver sa femme au salon.
Entrez.
Bonsoir. Mon fils, enfin notre fils, dîne avec nous.
Elle lui dit, il s'est invité.
Non, c'est moi qui lui ai dit de venir. J'ai à lui parler.
Et une demi-heure plus tard, Gilbert va sonner chez ses parents.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Entrez.
Et le domestique le mène au salon. Il frappe.
Entrez, monsieur.
Et la fait rentrer. Là, il retrouve ses parents.
Bonjour, père. Bonjour, mère.
Il va les embrasser. Et demande à son père, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Son père lui dit, nous parlerons tout ça durant le repas.
Thank you. Pendant le repas, Maurice dit à Gilbert,
« Il est temps, c'est que tu commences à t'intéresser à la société. »
Gilbert lui dit, « C'est pour ça que vous m'avez fait venir. Vous savez bien que ça ne m'intéresse pas. Je vous l'ai déjà dit. »
Maurice lui dit, « Je sais, mais tu trouves normal de vivre de quelque chose sans que tu t'en occupes. »
Gilbert lui dit, « J'en vis, c'est par hasard. Si vous aviez été des ouvriers ou des marchands de poissons, ça aurait été la même chose. »
Maurice lui dit, « Non, parce que nous n'aurions pas été suffisamment riches pour que tu poursuives tes études. Et en ce moment, tu serais sans travail. »
Je le sais, père, mais puisque nous en avons les moyens, pourquoi est-ce que je ne poursuivrais pas mes études?
Poursuis tes études, si tu désires, mais de temps en temps, tu pourrais t'occuper, ou plutôt t'inquiéter de savoir comment marche la machine qui te fait vivre, te permet de vivre comme tu le veux.
Gilbert lui dit, j'ai pas le temps de faire deux choses à la fois.
Dis plutôt que tu ne veux pas avoir le temps. Bon, j'ai compris. Laissons tomber. Mais si un jour, la société ne peut plus te permettre de vivre comme tu l'entends, eh bien, tu pourras te faire le reproche de ne pas l'avoir aidé.
Et il ne lui parle plus de tout ça. Demain, Maurice le dit à Harold.
Il refuse, c'est de s'intéresser à la société.
Harold lui dit, c'est bien regrettable.
À qui le dites-vous ?
Harold va le dire à Judith. Elle lui dit, il va falloir se surveiller Gilbert et trouver un moyen pour l'impliquer dans l'affaire.
Les jours passent. Charlotte est très occupée pour ses soirées. Elle les prépare. C'est la saison des soirées. Pleine saison de soirées. Elle est obligée d'en organiser beaucoup à cause des affaires de son mari. On invite les gens avec qui il veut parler. Les personnes ne peuvent refuser parce que c'est un honneur d'être invité chez les Francs-Blancs. Et puis, il y a parmi les invités tellement de grandes personnalités. Elle invite bien entendu Gilbert. Un soir, il est chez ses parents au salon. Sa mère lui dit,
j'ai une soirée et j'aimerais c'est que tu y sois. Parce que le premier ministre du Portugal y sera.
Gilbert lui dit,
vous auriez pu m'en parler plus tôt. Nathalie aura des difficultés pour venir.
Elle lui dit, justement, j'aimerais c'est que tu viennes seule, sans elle.
Il lui dit furieux, et pourquoi, mère?
Elle lui dit, parce que c'est mieux. Il est plus décent que tu ne viennes pas avec elle. Elle ne t'est rien. Ce n'est pas bien d'être toujours avec cette fille. Ça fait jaser.
Gilbert lui dit furieux,
elle est ma fiancée. Et vous savez très bien,
Charles lui dit. Elle ne l'est pas officiellement. Donc, tu ne viendras pas avec elle. Mais si vous le désirez, vous pouvez nous fiancer de suite. » Elle lui dit,
« Ça ne se fait pas comme ça. Et puis, j'ai bien le droit de ne pas vouloir cette fille chez moi, non ?»
Gilbert lui dit, « Eh bien, je ne viendrai pas à votre satanée soirée. »
Elle lui dit, « Si tu tiens absolument à amener quelqu'un, tu peux faire venir Julien. »
Elle lui dit, « Il n'y tient pas. » Et il se lève.
La porte s'ouvre. C'est son père. Il va vers eux. Et leur dit, « Que se passe-t-il ? » On l'entend crier. Charlotte lui dit, « Ton fils ne veut pas venir à la soirée. » Gilbert lui dit, « C'est pas du tout ça. » Maurice lui dit, « Tu refuses de faire plaisir à ta mère ? Elle ne veut pas inviter Nathalie. Et alors, tu peux bien venir sans Nathalie pour une fois. » Gilbert lui dit, « Mère traite Nathalie de rien du tout. » Maurice lui dit, « Pour cette soirée, viens seul. » « Non, je ne viendrai pas seul. » Maurice lui dit agacé, « Ça suffit. Où tu viens, où je te coupe les vivres. » Gilbert soupire et sort du salon.
Le lendemain matin, il va chez Julien, comme tous les matins.
Entre. Bonjour. Salut.
Il va s'asseoir à côté de Julien. Et il lui raconte tout.
Lui dit, tu es obligé d'y aller.
Non, je n'irai pas.
Julien lui dit, si tu n'y vas pas, tu vas te retrouver à la rue, sans argent. Comment feras-tu?
Tu penses pour une soirée? Gilbert lui dit, j'accepte celle-là pour les autres aussi. Ils ne l'inviteront pas.
Julien lui dit, tant pis, vous voyez à d'autres soirées. Vas-y.
Bien, j'y vais. Mais tu viens avec moi. D'ailleurs, ma mère veut bien de toi.
Julien lui dit, elle me fait un bien grand honneur.
Et ils rient tous les deux.
Gilbert trouve ça très drôle.
Père, lorsqu'il voit Nathalie à la sortie de ses cours, lui dit « Jeudi, je ne peux pas te voir. »
« Pourquoi ?»
Il lui répond « Parce que ma mère veut que je sois à une de ses soirées. » Elle lui dit « Je peux peut-être y aller avec toi ?» Il lui dit « Non, d'ailleurs, tu seras très ennuyeux. Et puis, tu ne peux pas. » Elle lui demande « Pourquoi ?»
Il lui dit « Parce que c'est une soirée très spéciale. Il y aura le premier ministre de Portugal. »
Elle fait, « Ah, bon, tant pis. »
ensemble. C'est pour moi ?
Gilbert et Julien vont à la soirée. Il y a beaucoup de monde. Gilbert dit à Julien, avec tout ce monde, on n'aurait même pas remarqué Nathalie. Charlotte va vers eux.
Oh, vous voilà les deux inséparables.
Gilbert dit à Julien, elle aime bien qu'on me croie en concubinage avec toi, mieux qu'avec Nathalie. Julien lui dit, c'est parce que je ne peux pas te faire un petit. Charlotte lui dit,
venez, je vais vous présenter à des jeunes filles charmantes.
Elle les mène vers deux jeunes filles, l'une blonde et l'autre rousse, grande, mince. La rousse a une robe blanche et l'autre bleue. La mère leur dit,
voici Rosalie, la rousse.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morzetti.